Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Vittori sur le plateau. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos, face à vous Philippe Mutrici. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Directeur des études de BPI France et Thomas Grébin. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Responsable du programme macroéconomie et finances internationales du CEPI. Je voulais qu'on commence d'abord par l'actualité politique avant de parler de la conjoncture macro et débriefer un peu ensemble la conférence de presse du Premier ministre, beaucoup de ministres avec lui hier, pour parler de ces aides au carburant face à la crise, une crise qui va durer, a dit Sébastien Lecornu. Il faut qu'on change d'échelle dans les aides puisque ça va durer au moins jusqu'à l'été. Qu'en a pensé Jean-Marc Vittori de cette conférence de presse?
Sébastien Lecornu a fait le job. Il a fait le job, mais avec très très peu de moyens. Hein. Vous vous souvenez
Beaucoup avec peu, c'est ce que disait François Bayrou.
Vous ne vous souvenez sans doute pas, mais pendant la guerre, quand il fallait faire des cadeaux à Noël pour les enfants, c'était difficile, quoi. Hein, donc les enfants, ils devaient se contenter d'une orange, parce qu'il n'y avait rien. Il y a rien dans les caisses de l'État, il y a qu'un énorme trou, et on a des tensions très fortes hein, sur les marchés de la dette publique. Hein. Ça s'appelle montée des taux d'intérêt à long terme.
Oui.
Donc c'est difficile de creuser encore plus le trou, et donc on n'accorde pas grand-chose. Hein. Ce qui a été accordé hier, moi j'ai adoré la précision, 710 millions.
Ah, oui.
On en est à préciser la dizaine de millions. Hein, ce qui a été annoncé hier, c'est comme on va répartir trois gros lots de l'euro-million entre 68 millions de personnes. Évidemment, c'est en fait très très peu. Alors, il a fait là où ça faisait le plus mal, et c'est vrai qu'il y a des situations qui sont absolument dramatiques. Hein, je pense à toutes les femmes, parce que c'est beaucoup de femmes qui ont des métiers d'assistance, les aides à domicile.
Les aides à la personne, beaucoup, oui.
À la personne, elles ont le droit à quelque chose. Et ça va être tout à fait important. Ouais. Les infirmières ont aussi eu... Parce que c'est des prestations dont les tarifs sont fixés.
Oui.
Hein, donc voilà, le prix de l'essence monte, donc le prix de la prestation monte, mais le coût de la prestation monte, mais le prix ne monte pas.
Et oui.
Évidemment, là, il faut
compenser.
Mais
un peu.
On peut faire ce qu'on a vu hier, c'est qu'on fait très très peu.
Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas Grébin? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'on cible bien? On dit souvent que les aides doivent être timely, targeted and temporary. C'était le triptyque pendant la crise financière. Je me souviens de Christine Lagarde qui nous répétait ça en permanence. Les aides doivent être ciblées, temporaire et versé au bon moment. Est-ce qu'on respecte le bon tempo et le bon calibre?
Oui, si l'objectif c'est de cibler, là il y a un ciblage, comme l'a dit Jean-Marc. Pour l'instant, ça devrait jusqu'à la fin d'année coûter autour de 1,2 milliard d'euros. Donc il y a aussi un plan potentiellement de soutien au secteur, notamment de la chimie.
Oui.
Qui a été annoncé, qui pourrait être autour de 500 millions, oui. Mais il n'y a pas le détail. Donc
Sébastien Martin en parlait ce matin dans la matinale de Good Morning Business.
Mais après, il y a un arbitrage politique, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a une dégradation quand même significative du pouvoir d'achat. On va voir notamment la dégradation de la demande, de ce qui se passe sur les services, puisque l'inflation, on peut penser, va augmenter plus fortement en 2026 que les salaires. Et d'autre part, le problème, c'est les ménages français vont connaître une dégradation du pouvoir d'achat. Et de l'autre, vous avez des aides très ciblées. Mais quand vous ciblez ces aides, ça veut dire que vous n'aidez pas les classes moyennes. Donc ça veut dire qu'on prend le parti de cette dégradation du pouvoir d'achat. Alors peut-être juste une autre petite nuance, c'est que 1,2 milliard ou 1,7 milliard, c'est vrai que c'est pas grand-chose par rapport aux 70 milliards de la crise énergétique précédente.
Uniquement sur les carburants de mémoire hein, en 2021. C'était 7 milliards et demi. Hein,
les aides, ouais, les aides à la pompe.
Les réductions à la pompe.
Mais aussi, on a un peu perdu les ordres de grandeur. C'est-à-dire que quand vous alignez 70 milliards d'euros en deux ans, avant, il y a eu la gestion du Covid. Et donc, c'est des montants quand même.
Un milliard d'euros. Quoi qu'il en coûte, a duré trop longtemps.
Un milliard d'euros, ça reste significatif et a fortiori dans un contexte budgétaire aussi restreint.
Bon, ces aides sont bien ciblées, Philippe Mutrici?
Oui, plutôt bien ciblées. En fait, je dirais que dans un monde idéal,
l'économie fonctionne selon un principe de liberté et de responsabilité. C'est-à-dire que quand les prix d'un bien augmentent, les agents doivent s'adapter et moins utiliser le bien. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit en partie pour la consommation de produits pétroliers, puisqu'elle a beaucoup baissé.
14% de baisse, annonce Bercy ce matin, au mois de mai, de consommation des carburants. Le signal prix fonctionne quand même superbement
bien
pour la consommation des énergies carbonées.
Et à l'inverse, la vente de véhicules électriques ou l'équipement individuel des particuliers qui en ont acheté pour avoir des bornes de recharge explose. Donc ça, c'est plutôt une économie qui fonctionne normalement. Et si on pouvait être dans une économie...
Et plutôt positif pour l'environnement.
Tout s'ajuste, oui, où tout s'ajuste de cette façon-là, ce serait idéal. Le problème, Jean-Marc l'a signalé, c'est qu'il y a des professions pour lesquelles les salaires sont tellement faibles et fixes que c'est la possibilité de travailler qui est remise en cause. Et donc, pour ces professions-là, on ne peut pas aller vers ce monde idéal. Mais à l'inverse, il y a 3 ans, peut-être 5 ans, ou si on prend peut-être les 40 dernières années, on était dans un autre monde. Le monde où on attend tout de l'État. Donc, dès qu'il y a une crise, l'État paye. Dès qu'il y a une crise, il faut augmenter le SMIC, il faut baisser les impôts, baisser la TVA, etc. Ce monde-là, je pense, c'est un monde complètement révolu.
Ah bon ? Vous n'avez pas l'impression qu'on a une multiplication des demandes auprès de l'État nounou pour une subvention, pour les taxis,
mais
pour
l'État nounou, il peut plus répondre.
Pour les...
Voilà, c'est que jusqu'à présent, l'État nounou, il pouvait répondre. Maintenant, il ne peut plus. Et donc, entre ces deux modèles, si je puis dire, le deuxième n'est pas un modèle pour moi, je trouve que l'équilibre qui a été trouvé hier, finalement, n'est pas si mal. Donc, dans une contrainte budgétaire extrêmement sévère, arriver à cibler de façon très efficace. Alors après, le ciblage efficace, on constate toujours ex poste. Ex ante, en tout cas, il semble très, très bien calibré. Moi, je trouve que c'est plutôt un bel exercice.
Bon, alors vous, on va y aller sur la contrainte budgétaire quand même, parce que les aides, c'est une chose. La croissance qui ralentit est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et la hausse des taux qui renchérit le coût de la dette, Jean-Marc Vittori. On parle pour l'instant d'un coût de la crise compris entre 6 et 8 milliards d'euros. Est-ce que c'est ce que ça va nous coûter ou est-ce qu'on est encore en deçà de la réalité ?
Moi, je trouve qu'on est dans un monde irréel depuis des semaines là-dessus, parce que tout le monde suppose implicitement que le détroit d'Ormuz va rouvrir demain. Et c'est le cas depuis maintenant plus de 2 mois.
Et oui.
Or, force est de constater que le détroit d'Ormuz ne rouvre pas, même s'il y a quelques supertankers qui ont pu passer ces 2 ou 3 derniers jours. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de l'état des cuves. Les derniers supertankers qui sont partis avant le blocus de fait, ils sont arrivés fin avril, donc il y a encore du pétrole qui est arrivé à ce moment-là. On tire sur les stocks comme des malades, comme on l'a jamais fait dans l'histoire.
Et les infrastructures
L'Agence internationale de l'énergie nous a signalé que c'était une crise plus grave que toutes les crises précédentes. Jusqu'à présent, nous ne l'avons pas mesuré parce que nous n'avons pas eu de pénurie de pétrole physique. Et ça va être...
Il a été très rassurant, Sébastien Lecornu, hier, l'approvisionnement.
Mais c'est normal, le président.
Le président
de la République a été aussi il y a quelques jours. Et c'est normal qu'il tienne ce discours-là. Mais on risque d'avoir dans les prochaines semaines, pas à l'échelle de la France, mais à l'échelle planétaire, un manque de pétrole. Et à ce moment-là, comment ça va s'ajuster ? Là, le mécanisme de prix, on sait comment ça s'ajuste dans ces cas-là, c'est que ça monte.
Vous êtes en train de prédire un baril à $150 très bientôt ?
Moi, je dis que si les choses ne changent pas à très brève échéance, on va franchir la barre des $200.
Ah oui. Non, je vois Philippe Petrici qui n'est pas d'accord.
En 2008, le baril, on dit $150 parce que c'est le pic qu'on a vu, notamment en 2008.
Oui.
En dollars constants, $150 de 2008, ça fait $200 d'aujourd'hui. Et en 2008, la situation était moins tendue sur les marchés qu'elle ne pourrait l'être dans les prochaines semaines.
Et le litre était beaucoup moins cher surtout. Il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus. En 2008, on était à $150 le baril. On n'a jamais passé les 2 euros. Aujourd'hui, on est à $110 le baril. Et on est à 2,20 €. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer pourquoi ? Quelle est la différence entre 2008 et aujourd'hui ?
Pas regarder ça d'assez près, mais je pense que mes camarades le savent.
Oui. L'euro-dollar qui a changé.
Il y a de ça. Il y a aussi des contributions pour l'environnement.
Parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est que c'est l'État qui est le profiteur de crise.
Oui, il y a le raffinage qui est complexe. C'est pas forcément le même pétrole non plus. Il y a du pétrole plus ou moins cher à raffiner. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer. Mais le point sur lequel, effectivement, je suis un petit peu moins sombre que vous, Jean-Marc,
oui.
C'est sur la réouverture du Détroit. Alors, effectivement, vous l'avez mentionné, hein, il y a quelques bateaux qui passent. L'article des Échos d'hier disait que c'était 4 fois plus cette semaine que la semaine dernière. Donc, c'est une 50aine de bateaux qui sont passés, quand même.
4 fois pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose. Une 50aine de bateaux.
Oui. Il y en avait moins de 10 oui. semaines d'avant. Donc,
mais c'est 400 en temps ordinaire. Donc,
c'est, hein. Voilà.
Donc, bon.
On n'y est pas encore. Mais... c'est pas la fermeture totale.
Oui.
Et d'autre part, on sait aussi que les pays du Golfe font des investissements massifs pour contourner le Détroit.
Oui.
Par voie terrestre,
nouvelle route,
les biens matériels.
Voilà.
Et donc, moi, sur ce scénario à 150 dollars, je peux pas l'exclure si jamais il y a une reprise de l'intensité du conflit. Mais là, le jeu d'acteurs, c'est plutôt de calmer. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que le baril reste à 105 pour le moment. Il était à 105 ce matin. C'est encore un niveau élevé. C'est pas un niveau dramatique pour l'économie mondiale. Les sujets d'approvisionnement sont peut-être un peu plus préoccupants, mais
oui.
C'est du report. C'est-à-dire que ce qui n'est pas produit aujourd'hui sera produit quand le pétrole arrivera.
Thomas Grébin, vous êtes d'accord avec ça ou pas?
On est en train de s'installer dans une forme de guerre froide. C'est-à-dire que, comme il était dit tout à l'heure, on pouvait s'attendre que ça durerait 2 semaines, puis 1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois. Et les prévisions, notamment de croissance pour l'année 2026, avaient été construites sur le fait que on aurait un prix du baril autour de 90 dollars ce trimestre,
oui.
Et que progressivement, ça allait baisser vers 80, 70,
oui.
80 à la fin de l'année. Or là, on voit bien qu'on est plutôt sur un baril autour de 100 dollars toute l'année, et donc au minimum, il y aura une dégradation plus significative de l'activité économique. Donc je ne sais pas dans lequel des...
Voilà. C'est grand écart. Hein. J'ai 200 dollars à ma gauche, 100 dollars à ma droite.
Oui,
c'est pas tout à fait les mêmes effets macroéconomiques sur l'économie.
Oui, hein. Rappelons juste que le prix pour la France qui est neutre sur le PIB, c'est 70 dollars le baril en moyenne sur l'année. Donc si on était à 100 en moyenne sur l'année...
On a commencé à 60 dollars, je rappelle.
Et on a commencé un peu en dessous de 60. Si on était en moyenne à 100, on perdrait 0,3 points de PIB. Voilà. Donc ça, c'est à peu près le consensus hors effet second tour.
Et pas rien.
Oui, c'est pas rien. On passe de 1 à 0,7. Là, c'était 0,9. On descend à 0,8. Enfin, voilà, on est dans ces eaux-là, mais on n'est pas du tout au bord de la récession, comme certains pourraient nous le dire. Et sur ce prix du baril, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a plutôt des surcapacités de production aujourd'hui. C'est une grande différence avec 2008. Donc en 2008, il n'y avait pas le pétrole, le gaz de schiste, il n'y avait pas la découverte de tous les nouveaux gisements. Et donc, les
Émirats arabes,
merci de m'aider, sont sortis de l'OPEP. Donc on est plutôt dans une situation où quand le Détroit se réouvre, il va y avoir abondance de baril et donc baisse rapide des prix.
Bon, oui, je voulais qu'on revienne sur, parce qu'on va parler récession tout à l'heure. Oui, Jean-Marc.
Tout à fait d'accord, mais je pense qu'il y a une question d'horizon. C'est-à-dire ce qu'a raconté Philippe, c'est ce qui va se passer à un an. Moi, ce que je vois, c'est qu'on risque d'avoir un goût, avant qu'on ait à la fois des pays qui produisent davantage. On voit bien, hein, aux États-Unis, les producteurs de pétrole de schiste, ils se sont pas remis à produire massivement. Hein, donc, et ça va pas venir instantanément. Donc,
oui.
Et pareil pour les investissements. Si vous pouvez construire des routes et des camions pour transporter du pétrole au lieu de le faire passer par des supertankers, mais ça va pas se faire instantanément. Donc voilà, je pense que dans un an ou deux, on peut avoir un marché qui s'organise de manière très différente. Mais avant ça, on risque
le temps de la transition risque d'être difficile.
Qui peut être un peu brutal.
Et on a une campagne présidentielle entre les deux. Mais on reviendra en seconde partie de l'émission sur la conjoncture. Est-ce qu'il faut craindre une récession ou pas? Je voulais qu'on reste sur les questions là budgétaires, hein, parce que le ralentissement de la croissance, il n'a pas été acté encore officiellement par Bercy. On est toujours sur une prévision de croissance de 0,9% cette année. Hier, la Commission européenne et le FMI ont réduit ces prévisions. Ça va avoir des conséquences importantes sur notre budget. Le Sénat appel à l'ouverture d'un projet de loi de finances rectificative pour faire toute la lumière sur l'état de nos comptes publics. Est-ce que c'est une bonne idée, Philippe Mutrici?
J'aimerais bien entrer au Sénat pour pouvoir vous répondre. Mais c'est une bonne idée dans la mesure où on fait abstraction de ce que ça pourrait avoir comme impact politique immédiat sur le gouvernement.
Ah oui, c'est l'ouverture de la boîte à baffes à l'Assemblée. Hein.
Voilà. Donc, avec possibilité que le gouvernement tombe. Donc ça, je pense que c'est immédiatement la réaction qui doit avoir lieu dans un certain nombre de ministères. Mais si on fait abstraction de cette situation très, très particulière, oui, bien sûr, il vaudrait mieux qu'il y ait une loi de finances rectificative. et que ce soit l'occasion de poser les vrais sujets et notamment de faire les vraies économies sur les dépenses publiques.
Qui vont se monter à combien? Est-ce qu'on sait, Thomas Grébin, l'effort qu'il va falloir mener cette année pour essayer de tenir notre trajectoire de déficit?
On sait déjà ce que pourrait coûter, alors ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que ça pourrait coûter.
On parle de 6 à 8 milliards.
6 à 8 milliards.
C'est un peu optimiste, non?
C'est un peu optimiste. Ce qu'on peut voir, c'est aussi l'année dernière, en 2025, il faut se souvenir, on va peut-être parler des économies, Philippe en parlait aussi, il faut se souvenir que, par exemple, Michel Barnier disait que pour l'année 2025, il y aurait un effort budgétaire conséquent qui serait fait avec 2/3 de baisse de dépenses et oui, 1/3 de hausse d'impôts. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2025, les dépenses publiques ont augmenté de 40 milliards. Et quand on regarde l'effort budgétaire, c'est, selon la Cour des comptes, c'est 100% fait par des hausses d'impôts. Il y a eu 23 milliards de hausses d'impôts. Donc ça aussi, c'était un passage de la conférence de presse du Premier ministre hier.
Il a dit pas de hausse d'impôts. Hein. Promis juré, il n'y aura pas de hausse d'impôts dans le prochain budget.
Donc pour l'instant, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Je crains que lorsqu'on arrivera dans les discussions budgétaires à l'automne, il y aura toujours les mêmes marronniers qui vont revenir. Et comme on ne peut pas faire d'efforts sur la protection sociale, alors que c'est là où, de nouveau, c'est
le FMI appelle précisément à cibler retraite, santé.
On va revenir sur les hausses d'impôts sur les entreprises. Donc.
Mais il faut qu'on arrête de jouer avec les mots. Enfin, quand on gèle un allègement sur les cotisations sociales, ça revient à augmenter les prélèvements.
Alors allons-y, parce que ça a été confirmé ce matin.
Il faut arrêter de jouer sur les mots avec cette histoire-là.
Les impôts vont augmenter, Jean-Marc Vittori.
On va arrêter de faire des cadeaux aux entreprises. On augmente les cotisations payées par les entreprises. Et donc, quoi que dise le politique, et on comprend pourquoi le politique dit ça, mais la réalité, c'est pas que les impôts n'augmentent pas. La réalité, c'est que les prélèvements vont déjà continuer d'augmenter.
Bon. Oui. J'ajoute que cette annonce sur les charges sociales, il y a un lien immédiat avec le sujet emploi que vous avez évoqué tout à l'heure.
Oui.
Donc,
qu'on rappelle le cadre, Philippe, d'abord. Le sujet un peu technique des allègements généraux sur les bas salaires. Entre 1 et 3 SMIC, on a baissé les allègements de charges pour favoriser l'emploi, effectivement. Et la hausse du SMIC prévue au 1er juin fait que l'ensemble des allègements de charges, 83 milliards, si on met tout ensemble, va augmenter mécaniquement. Et là, Bercy a dit, non. Il n'y a que le SMIC qui augmente, donc les allègements de charges, ce n'est pas jusqu'à 3 SMIC. Et là, il y a un bras de fer qui s'est tenu ces derniers jours entre le patronat et Bercy, assez costaud. Bon, on a eu l'arbitrage ce matin, si les allègements de charges seront bien gelés. C'est donc
ça fait 2 milliards de hausse de coûts pour les entreprises.
2 milliards, c'est donc une hausse d'impôts pour les entreprises.
C'est 2 milliards de coûts sur la masse salariale. Ça concerne, comme vous l'avez dit, les emplois au-dessous de 3 SMIC, mais en fait, essentiellement, la majeure partie entre 1 et 1,5. Hein, donc, c'est la partie la plus fragile de la population qui est concurrencée par la robotisation, par peut-être l'IA, c'est pas encore, j'y crois pas, mais enfin en tout cas par des technologies, mais surtout, adoptons un point de vue microéconomie du chef d'entreprise. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Il voit que sa masse salariale va augmenter, mais pas ses ventes. Que voulez-vous qu'il fasse? Il va, enfin je sais pas,
les ventes,
il va essayer de garder le plus longtemps. On le sait d'après toutes nos enquêtes, qu'il y a un phénomène de rétention maximale de main-d'œuvre depuis 2018, où les chefs d'entreprise ont tellement peur d'être en pénurie de compétences qu'ils essaient de les garder les plus longtemps possible. Mais il y a un moment où ça n'est plus possible. Et donc, de toute façon, dès qu'on touche dans cette zone-là au coût du travail, immédiatement, les salariés les moins qualifiés le payent et se retrouvent au chômage. Le chômage, il augmente depuis à peu près un an. Hein, donc,
ça veut dire qu'il faudrait désindexer le salaire minimum? On arrête l'augmentation automatique?
Je pense que c'est plutôt dans un monde idéal que j'évoquais tout à l'heure, liberté, responsabilité, oui, on n'y est pas dans ce monde-là, donc on ne peut pas le faire tout de suite. En revanche, dans un monde tel qu'on l'a aujourd'hui, ce n'est pas sur les charges sociales, les exonérations de charges sociales et le coût du travail qu'il faut faire des économies. Comme le disait Jean-Marc, comme le dit le FMI, c'est sur les dépenses sociales, la santé et la retraite essentiellement.
Ben oui. Thomas Grébin.
Et aussi, le problème, c'est qu'on aggrave les difficultés structurelles du modèle économique français. C'est-à-dire que cette structure des charges, qui est en grande partie héritée des années 90. C'était une époque où on voulait développer les emplois de services non qualifiés, et dans une époque aussi, ça et accompagnait le mouvement de désindustrialisation. Donc on aidait les emplois au niveau du SMIC, qui sont essentiellement quand même des emplois de services. Par exemple, quand on regarde il y a 30% des salariés dans la restauration ou l'hébergement qui sont payés au SMIC. Quand vous regardez dans le secteur manufacturier, c'est 5%. Donc, quand on parle de ces emplois au niveau du SMIC, c'est quand même beaucoup d'emplois de services. Donc, bref, on a cette structure d'allègement de charges qui reflète un choix politique de favoriser les emplois de services au détriment de l'industrie, et on voit que c'est très difficile de revenir en arrière. L'autre,
avec un coût, je le rappelle, qui est passé de 50 à 80 milliards en 5 ans.
Mais ce coût, il est aussi pas du fait qu'on a des dépenses qui augmentent de plus en plus. On a 14 points de PIB de retraite, 2 à 3 points de PIB de plus que nos voisins. Moment, d'un point de vue macro, ça se répercute dans le fait qu'on a des impôts qui sont plus élevés. Donc après, il y a des questions de tuyauterie sur comment on répercute et quel type d'impôt on fait payer. Mais au final, on a un niveau d'imposition qui est plus élevé que chez nos voisins. Et donc, ce qui veut dire aussi que, par exemple, le financement de la sécurité sociale repose beaucoup plus sur les secteurs abrités de la concurrence internationale, donc en partie une partie des services, que sur les secteurs exposés à la concurrence internationale qui sont beaucoup plus taxés. Et on a une structure d'allègement de charges qui est relativement inédite au niveau européen, où on a des allègements quasi totaux au niveau du SMIC. Alors qu'on taxe beaucoup plus les emplois qualifiés. Donc là aussi, ça accentue ce problème que si on veut réindustrialiser. Et un dernier point, c'est que si on gèle ces barèmes, ben ça va encore accentuer le problème de la pente. C'est-à-dire cette question de la smicardisation.
Et oui, c'est aussi une trappe à bas salaire, hein.
De l'économie française. C'est-à-dire que ce sera encore plus difficile ou plus coûteux d'augmenter les salaires.
Je rappelle qu'il faut augmenter de 500 euros un salarié brut pour qu'il ait 100 euros de plus au-dessus du SMIC. Philippe, puis Jean-Marc.
Mais moi, ce débat-là, enfin, me met dans un état de colère très profond, en fait. J'ai vraiment l'impression que les Français sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. Je ne sais pas si vous connaissez cette fable villageoise. Dans un village, il y a une poule qui pond des œufs en or tous les jours et le village s'enrichit. Sauf qu'on trouve qu'il n'y a pas assez d'œufs. Et donc, ils se disent, on va tuer la poule parce qu'elle a certainement de l'or à l'intérieur. Il n'y a pas d'or à l'intérieur de la poule. La poule, c'est les entreprises aujourd'hui qui nous pondent tous les mois des salaires, de la valeur ajoutée, etc. Et on est en train de la tuer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faut trouver des recettes en France, on va vers la poule aux œufs d'or, celle qui crée de l'emploi et de l'économie. Et
d'ailleurs, de moins en moins en France, la poule. Mais...
Et on regarde de plus en plus dans le champ d'à côté, la poule.
Et j'aimerais bien, je voudrais quand même qu'on fasse le travail entre économistes. Combien l'État récupère-t-il quand le chômage baisse et combien perd-il quand le chômage augmente? Parce que ce qu'il va gagner d'un côté 2 milliards, il va le perdre de l'autre avec l'augmentation du chômage.
Avec le pétrole, ça pourrait être intéressant de le faire avec l'emploi, effectivement, Jean-Marc.
Je voudrais même rappeler que les allègements de cotisations sociales qui ont été lancés à partir des années 1990, il y a même une très bonne raison derrière, hein, c'est qu'on avait un emploi de la main-d'œuvre non qualifiée qui posait vraiment problème, avec un chômage qui était beaucoup plus élevé que chez les voisins. Et pourquoi ce chômage était beaucoup plus élevé? Parce que il y a des cotisations sociales massives en France, plus massives que pratiquement partout ailleurs. Donc il y avait même une raison, c'était pas ça, voilà.
Et ça a plutôt bien fonctionné, quand
on a commencé à baisser les cotisations sociales, le taux de chômage en France était de 12% et il était beaucoup plus élevé qu'il n'est aujourd'hui sur la main-d'œuvre non qualifiée. Absolument. Donc il faut même avoir un tout petit peu ça en tête avant de se dire on peut geler tout ça, arrêter tout ça, c'est des cadeaux aux entreprises.
Oui. Alors après, je rappelle, 2014, avant la transformation du CICE, 20 milliards de coûts à peu près, on a multiplié par 4 la facture budgétaire. Encore une fois, c'est une vision budgétaire.
Mais quand on regarde après cette augmentation de la facture, pour les entreprises, les cotisations sociales restent extrêmement élevées en France par rapport aux autres. Oui. Enfin, on a mis un cautère sur une jambe de bois. Hein. On a dit, il y a beaucoup trop de cotisations sociales. Elles sont trop compliquées à payer pour les entreprises. Donc, on va les abaisser. Et donc, maintenant, on dit, ah ben, cet abaissement de cotisations, c'est un cadeau
unique pour
l'entreprise. Ben oui, mais c'est parce que les cotisations sont absolument colossales dans ce pays.
Thomas Grabin.
C'est sûr que d'un point de vue pour améliorer structurellement l'économie, on pourrait penser plutôt à une désindexation des retraites. Alors une désindexation totale, c'est ni possible politiquement
Je rappelle que la pension moyenne est de 1500 euros.
Donc c'est pas souhaitable. Mais s'il y avait une désindexation totale, ça rapporterait quand même 8 milliards juste pour avec une inflation autour de 2%. Donc juste pour donner un ordre de grandeur. Et après il y a d'autres mesures, par exemple l'abattement de 10% sur les retraites, qui est un héritage de Raymond Barre à une époque où les retraités étaient beaucoup moins bien payés les pensions étaient beaucoup plus faibles que les revenus
des actifs. Le niveau de vie, bien
sûr. Ça se justifie de moins en moins, et cet abattement, si on le supprimait, ça rapporterait entre 4 et 5 milliards, donc le double du gel du barème des allègements de charges. Et si on proposait par exemple un montant forfaitaire qui permettrait de favoriser relativement les petites pensions, ben ça permettrait d'économiser autour de 2 à 3 milliards. Donc il y a quand même des mesures qui sont beaucoup plus difficiles à faire passer politiquement, mais qui ne dégraderaient pas la situation structurelle des entreprises.
On en parlait cette semaine avec Jean-Hervé Lorenzi, qui plaidait pour la suppression de l'abattement pour frais professionnels des retraités. Il nous expliquait qu'il avait reçu des menaces de mort après avoir soutenu cette mesure. Donc on voit que c'est compliqué. Allez, il est 9h passé de 58 minutes. On se retrouve tout de suite après une petite coupure pub pour parler conjoncture. Faut-il craindre une récession? Et puis, cette vague d'investissements chinois en 2025 sur le sol européen, plus 67%. Est-ce une bonne nouvelle ou est-ce qu'il faut un peu s'en inquiéter tout de même? On se retrouve tout de suite.